Bonjour, soyez les bienvenus à cette édition de Radio Linguistica qui, cette fois-ci, s'occupe de la question irlandaise. How Irish is Northern Ireland? L'Irlande du Nord après le Brexit. Le Brexit a repoussé la question irlandaise à la une des journaux. En effet, on avait espéré que les accords du Vendredi Saint de 1998 finissent une fois pour toutes la guerre civile qui avait ravagé cette partie de l'Europe trop longtemps. Mais le Brexit a changé totalement la donne et les spectres du passé sont retournés. Pour éviter la déstabilisation de cette région toujours assez pauvre, l'accord du Brexit a prévu un statut particulier pour cette partie du Royaume-Uni. Le journaliste Xavier Dupré va nous expliquer le contenu et les conséquences de l'accord. In a second part, our colleague Tommy O'Connell will explain us the situation and the development of the Irish language in his home region. He will describe the relations between the Irish Department and the Northern Irish universities. Xavier, quel est le lien entre le Brexit et la question irlandaise? Pourquoi le Brexit a-t-il remis en question les acquis de 1998?
Bien, vous faites bien de poser la question de cette façon, puisqu'en fait, il faut remonter aux accords de 1998 pour comprendre bien ce qui se passe actuellement suite au Brexit. En 1998, un accord de partage du pouvoir entre la faction plutôt dure des unionistes, le DUP, enfin, c'est le nom de ce parti, c'est le DUP, et le Sinn Féin a été organisé. De telle façon qu'on pouvait dire que l'Irlande du Nord ressemblait un peu à la Belgique. Une forme de démocratie consociative avait été mise en œuvre. Et de 1998 jusqu'en 2017, date du Brexit, l'Irlande du Nord a vraiment pacifié ses relations entre les communautés, ce qui est évidemment, d'un point de vue économique, très favorable, puisque... Bien, dans des zones en guerre, on n'a peut-être pas nécessairement envie d'investir du capital. Donc ça a vraiment été positif pour l'Irlande du Nord. Ce qui s'est posé comme question à partir de 2017, à partir du Brexit, c'est que pour une partie, si vous voulez, ce modèle consociatif a été brisé et fractionné dans son cœur même. Puisque d'un côté, vous aviez des gens qui, à l'intérieur du Sinn Féin, disaient assez légitimement « Mais nous ne voulons pas devenir citoyens anglais, nous ne l'avons jamais voulu d'ailleurs. » Et c'est et ce qui se passe en ce moment, cette réaffirmation de nationalisme britannique nous enferme dans des frontières que nous ne reconnaissons pas. Et d'un autre côté, pour le DUP, les accords du Vendredi Saint qui ouvraient potentiellement la porte à un référendum de l'Irlande du Nord sur l'appartenance, la question de l'appartenance à l'Irlande, eh bien, en fait, le Brexit leur permettait de dire que, globalement, eh bien, il fallait en revenir avec certains aspects des accords du Vendredi Saint. Il fallait vraiment bétonner l'appartenance de l'Irlande du Nord au Royaume-Uni et un Royaume-Uni qui serait radicalement distinct de l'ensemble de l'Europe, en ce y compris l'Irlande du Sud, la République d'Air, qui se trouve juste en bas. Et donc, le Brexit a réactivé la question nationale dans cette partie de l'Europe. Alors, aujourd'hui, on commence à voir des tensions qui reviennent et qui sont en train de se réimposer. Jusqu'à présent, enfin, de 2017 à 2020, il n'y a pas eu de gouvernement en Irlande du Nord. Donc la situation politique était tendue. Depuis la fin de l'année 2020, il y a un gouvernement. Il fonctionne sur des bases consociatives. Mais récemment, le chef du parti DUP, qui appartenait à l'aile dure, l'aile de, très à droite du DUP. Le DUP, par certains aspects, est un parti qui peut être décrit comme étant d'extrême droite. Certains de ses membres les plus en vue sont créationnistes, et homophobe. Ce n'est pas vraiment les valeurs européennes. Donc, eh bien, le président du DUP, dont j'ai oublié le nom, je pourrais le retrouver ici, ce n'est pas vraiment très important, a démissionné parce qu'il entend bien que la question des accords qui sont intervenus entre le Royaume-Uni et l'Union européenne concernant la frontière irlandaise, qu'on puisse réviser ces accords. Je rappelle qu'aujourd'hui, et c'est bien ça qui déplaît à l'aile la plus conservatrice et la plus unioniste du DUP, aujourd'hui, l'Irlande du Nord est membre du marché commun.
Oui, alors ça, c'est évidemment ce pré-protocole qui règle le statut particulier de l'Irlande du Nord. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, un petit peu le contenu et les conséquences de ce protocole.
Alors, le protocole, en termes de contenu, est très simple. Si on avait eu une frontière dure entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Union européenne, c'est 50 km au sud de Belfast, c'est l'Irlande. C'est pas si loin que ça. Eh bien, s'il y avait eu une frontière dure, en réalité, l'Irlande du Nord était complètement sortie de l'Union européenne et n'avait plus de lien avec l'Irlande du Sud. C'eût été s'opposer très nettement à la philosophie des accords du Vendredi Saint, qui permettait nettement qu'à un moment donné, l'Irlande, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Irlande du Nord redevienne pleinement irlandaise. Donc aujourd'hui, l'Union, si vous voulez, les échanges commerciaux entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni supposent font l'objet d'un contrôle aux frontières dans les ports d'Irlande du Nord et dans un sens de flux de marchandises qui va du Royaume-Uni jusque à l'Irlande du Nord, cette partie du Royaume-Uni. Je vois que vous avez mis en image une saucisse. C'est très
Oui,
intéressant.
alors oui, c'est la formule symbolique qu'on
La
lit.
guerre de la
Oui,
saucisse.
c'est la guerre des saucisses. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire ceci, ça veut dire qu'une partie de la nourriture transformée, notamment des saucisses industrielles, qui sont fabriquées, consommées en Irlande du Nord, sont pour une partie d'entre elles fabriquées au Royaume-Uni, et une partie des fabricants britanniques, hein, du Royaume-Uni, estiment être aujourd'hui victimes de tracasseries puisqu'ils n'arrivent plus à, si vous voulez, vendre leur production, écouler leur production sur leur territoire national. D'où guerre des saucisses avec d'autres fabricants de saucisses industrielles. Globalement, il y a eu d'ailleurs, suite au protocole fixant aujourd'hui l'appartenance en fait de l'Irlande du Nord au marché commun, on a beaucoup entendu du côté du patronat britannique des voix qui se faisaient entendre et qui attiraient l'attention de l'opinion publique sur la possibilité que surviennent en Ulster, en Irlande du Nord, des pénuries. Il n'en est rien, puisqu'il faut quand même se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de frontières terrestres, les camions passent librement entre Belfast et Dublin, eh bien, il y a tout un. En fait, en réalité, aujourd'hui, l'Irlande du Nord fait partie du marché irlandais. Et donc, la plupart des biens qui étaient autrefois vendus de l'Angleterre vers l'Irlande du Nord, aujourd'hui, en fait, ils sont écoulés via la voie européenne. La voie européenne qui est en réalité cette Irlande qui est déjà quelque part, j'ose le mot, unifiée sur le plan commercial.
Or, vous l'avez déjà dit, la tension monte parce que les unionistes voient d'un mauvais œil ces accords qui rapprochent en effet l'Irlande du Nord avec l'Irlande et l'éloignent du reste du Royaume-Uni. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail ces tensions politiques?
Alors, jusqu'à présent, on a eu, je vais tout de suite retrouver le nom, voilà, Edwin Poates, qui était le leader du DUP, donc personnage assez particulier, puisqu'il se revendique du créationnisme, a déjà déclaré que l'homosexualité était une abomination, enfin, c'est assez particulier, je veux dire, Je ne m'attendais pas ça au 21e siècle en Irlande. Bon, voilà. Mais, en tout cas, ce monsieur démissionne parce qu'il dit « Mon parti fait trop de concessions au Sinn Féin. Nous devons redevenir un parti dur. Et s'il n'y a pas de gouvernement en Irlande du Nord, puisqu'il n'y aura plus de partage consociatif du pouvoir entre nous, unionistes, et les républicains du Sinn Féin, il n'y a pas de souci. Le pouvoir sera exercé directement à partir de Londres, comme c'est prévu dans la loi de dévolution. Donc le but du jeu de l'aile droite du DUP, c'est clairement de bloquer les institutions pour en revenir à un statut d'exception de l'Irlande du Nord tel qu'il existait avant 1998, avant les accords du Vendredi Saint. De telle sorte que petit à petit, on pourra éventuellement espérer revenir sur ce protocole. Ça, c'est leur espérance. Alors, je ne crois pas que Edwin Poates représente les vues de la totalité des membres de son parti. Je le souhaite. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a encore des gens du DUP qui sont membres du gouvernement nord-irlandais. Je crois qu'ils se rendent compte de deux choses. C'est que le protocole, il tiendra la route. Le Royaume-Uni n'est plus en mesure aujourd'hui de redessiner complètement le Brexit. Des accords ont été convenus, des arrangements institutionnels ont été aménagés. On ne va pas revenir en arrière. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, je pense que le DUP se rend de plus en plus compte de ce qu'est le poids politique et démographique réel des protestants d'Irlande du Nord. Les protestants d'Irlande du Nord seront, pour des raisons de déficit de natalité, comparé à la population catholique, vraisemblablement minoritaire en Irlande du Nord dans les 20 prochaines années. La question dès lors du référendum se posera, j'ai presque envie de dire, mathématiquement, mécaniquement, et le résultat qui devrait en sortir sera une réunification de l'Irlande. Certains sondages disent que ce serait plutôt très juste comme résultat, d'autres disent que ce serait plutôt très favorable, mais la probabilité dans les 20 prochaines années, nous serons tous retraités ou morts, non, pas notre invité, nous sommes plus vieux que lui, mais la probabilité d'ici une génération est que l'Irlande du Nord redevienne pleinement irlandaise.
Quels sont les chiffres? Est-ce que vous avez les chiffres? Combien d'habitants à l'Irlande du Nord?
Ça, il fallait me les demander avant, les chiffres.
Je vais peut-être Tommy.
Oui, 1,9 million.
2 millions.
Tout à moi, juste, oui. Presque 2 millions.
Oui, c'est ça. Et le pourcentage de catholiques aujourd'hui, c'est 46-47%.
Oui, c'est ça.
Oui, et il y a quelques années, lorsque avait éclaté le Bloody Sunday en 71, la population était minoritaire, elle était aux alentours de 35%.
35, oui.
C'est ça, hein. Oui, oui. Et en fait, tout ceci a été comblé par la natalité des catholiques, qui ont encore aujourd'hui des familles assez nombreuses. Donc, dans quelques années, la majorité des habitants d'Irlande du Nord, ce ne seront plus des protestants, ce seront des catholiques. Et je crois que le DUP, une partie des modérés du DUP, ou des gens qui en tout cas pensent politiquement, ils se disent, mais nous serons Irlandais un jour, comment négocier finalement notre statut de minorité de manière relativement équilibrée et avantageuse? Et peut-être qu'un jour le DUP deviendra un parti conservateur particulier, un peu plus à droite que les autres, qui cherchera des voies catholiques, qui cherchera des subsides pour la population catholique d'Irlande du Nord et qui embriguera les suffrages. Ce serait l'évolution la plus rationnelle. Mais évidemment, tout le monde n'est pas de cet avis-là au sein du DUP, ça c'est clair. Il y a des unionistes qui veulent continuer l'héritage orangiste jusqu'au bout, dans une logique qui évoque plus, à la limite, les pieds noirs en Algérie française dans les années 50-60 du siècle dernier, que ces gens, mais ce n'est pas leur destin, hein, ces gens. Vous savez, ces gens qui sont, ces populations irlandaises, nord-irlandaises, protestantes, sont parfois présentes depuis deux siècles. Un siècle. Depuis plus de deux siècles, depuis la fin du 19e siècle. Donc, elles font partie du paysage, mais elles doivent se rendre compte qu'elles sont minoritaires. Le reste, c'est de l'extrémisme et c'est un sectarisme extrêmement dur. Mais voilà, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est ça. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je dois dire que le gouvernement d'Irlande du Nord tient. Il n'y a pas de vacance du pouvoir, il y a un exécutif nord-irlandais qui fonctionne, sous tension, avec des extrémistes, je peux le dire, des deux côtés, qui aimeraient précipiter, accélérer, accentuer les conflits, et une majorité de la population qui, finalement, rêve de vivre en paix et de connaître une certaine forme de prospérité économique et de stabilité générale. Mais voilà, donc, mais pour l'instant, c'est vrai que le message orangiste mais il faut savoir que le DUP a été membre, avec Theresa May, du gouvernement britannique. Il formait l'exécutif du Royaume. Donc évidemment, ils ont été terriblement avantagés. Ils ont été chercher, je crois que c'est 2 milliards de livres de subsides en plus pour l'Irlande du Nord. Des subsides qu'ils contrôlent aussi. Et le fait qu'ils les maîtrisent leur donne un poids politique important. Ils se rendent compte aussi de ça. Mais jusqu'à présent, l'exécutif nord-irlandais tourne. Et je crois que c'est la meilleure des choses. Parce que dans la logique qui est celle-là aujourd'hui, qui est celle du Brexit, les accords du vendredi saint continuent à fonctionner, ils sont d'application. Il y a un exécutif nord-irlandais.
Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse politique et économique. Et now, please, Tommy, tell us, you come from Northern Ireland. Tell us, what is the situation of the Irish language in Northern Ireland? And perhaps with a short look into history, Irish was once even illegal in Northern Ireland, wasn't it? So, how many speakers are there today? And where are they, and what are the trends?
Yes, well, in general, obviously, Irish Gaelic is the native language of Northern Ireland, and as you said, it was illegal. It currently doesn't have any official status in Northern Ireland, but of course, before 1921, anywhere in Ireland had any official status. When the whole of the country was part of the British Empire, Irish wasn't recognised. Everything was done through English. No education, for example, was available through Irish. That was changed, obviously, in the Republic of Ireland when they gained independence in 1921. But it continued in the north of Ireland, and under a unionist government, yes, there was very little recognition or status was given to Irish speakers, Irish culture in general. Even in my own town, I am from outside a town called Newry, which is halfway between Dublin and Belfast, as you can see on your Ballyclia on the screen. I'm from 2 kilometres from the border. In my own town in the 1950s, three men were arrested for erecting street signs in Irish. So there was a lot of hostility, official hostility, among the authorities towards the Irish language. And thankfully, that has changed a lot over the last 20 years since. And you had a conversation earlier on again about the Good Friday Agreement in 1998. And that was the first time that any bit of recognition was given to the language in Northern Ireland.
Well, let's have a look onto the map of Irish speakers according to a census of 2011. Well, the people was just asked, what is your knowledge, so your level of knowledge of Irish language, and so the darkest points, which mean most highest percentage, are somewhere in the middle of Northern Ireland, not where I would have expected them. Towards the edge of, could you a little bit explain this picture?
Yes, of course. So essentially, as you said, this is from the census of 2011, and the percentages of people who speak Irish, so the darker patches are over 30% according to the census. And really, they correspond to areas where people identify as Irish. And as you can see from the map, the colonization, the plantation of the north of Ireland, of Ulster, wasn't very uniform. So the places that are white on the map, they represent the areas that have a higher percentage of people who identify as British. So as people came in from Scotland and from England in the 17th century as part of a colonization process, the lands that are mainly white in this map are essentially where they settled and they were given land. And the areas that are darker is perhaps, you said it was unusual, you didn't expect to see darker areas in the center. But those areas are actually quite mountainous. Irish people stayed in those more hilly and mountainous areas. The language survived a lot longer in those areas. My own area is seen at the dark area in the very south of the map. Again, quite a hilly area where Irish culture and native Irish culture and language survived until the start of the last century. Belfast is also on the map, the small dark area to the east of the map, surrounded by whiter areas. There's quite a strong Irish language revival now happening in Belfast. So by the time the Northern Ireland state was founded in the 1920s, we still had over around 10,000 native Irish speakers, many of whom could not even speak English. But during the hostility of the officialdom, if you like, and the lack of status, those native Irish speakers weren't recognised. Irish wasn't allowed in the school system, in the education system. So essentially, a lot of the Irish speakers today are part of Irish language revival that's happened over the last three or four generations. And you asked earlier on about figures. Yes, so as I mentioned during Xavier's speech, we almost have 2 million people in Northern Ireland. And according to the last census, 11% said they have an ability in Irish. So you're talking about 200,000 people. And of course, perhaps the number of people who use the language daily, every day, as their mother tongue or as their language of choice, it would be lower than that, although we don't have exact figures. Just mentioning the education system, as you can see on the slide, that's actually the local school in my own area in Newry, Bunskull and Ewer.
Perhaps you could read the Irish here.
Yes, Bunskull and Ewer. And the Ewer refers to the town of Newry, which is a yew tree. It's a type of tree. And the first word, Bunskull, means primary school. And it also says, Ní nyart go cur le chéile. There is no strength without togetherness. So until the 1970s, until 1970, we had no Irish language medium schools in Northern Ireland. Essentially, the official school system didn't recognise Irish. You were not able to establish Irish language schools. When the first parents got together in Belfast in 1970 to establish the first school for their own children, they were actually threatened with legal action and told they would be put in prison. And that situation continued until 1984, when the first Irish language schools in the north got official educational recognition from the authorities in Northern Ireland. Today, we have over 6,000 children attending Irish language schools in the north. In the whole of the country, so the Republic and Northern Ireland together, we have over 70,000 kids going to Irish language schools. They have grown a lot, especially in the north, in the last 20 years. I think we have over 40 schools in the north, just from one in 1970. So, and also in the mainstream English language education, because we have a divided society, we also have a divided education system, and mainly on religious lines. So there are Catholic schools, Protestant schools, and also non-religious schools. And according to the school you go to, you will be able to learn Irish as a subject in primary school or in secondary school. And then outside of that system, we have our Irish language schools. As I said, we have over 40 schools and over 6,000 kids now attending.
I suppose mainly Catholic schools offer this.
Yes, the way the society is structured, that's true. Although you can also learn Irish in some Protestant schools and also in a lot of non-denominational schools, non-religious schools.
And what about universities? So, first tell us how the position of Irish at university, and then in the last minutes of our broadcast, we could speak a little bit about the Erasmus and the Northern Ireland.
Well, yes. Well, there you have a picture of one of our main universities in the north, Queen's University in Belfast. The other university is the University of Ulster. And they both offer undergraduate courses, BA courses in Irish. They are quite popular because, as I mentioned, the last few generations, there definitely is a revival. There's a reconnection with the language. People want to study the language of their ancestors. Perhaps they had Irish speakers in their family only two generations ago. People see it as a very positive representation of their Irish identity, especially in Northern Ireland. So a lot of people do it in school, either in an Irish language school or an English language school, and then select to study Irish as a language and the literature of the language in university. We also have, in the connection with DGT, there is also a master's course in the University of Ulster in translation and interpretation and professional language skills, which is quite popular. also a lot of students from Northern Ireland attend universities in the Republic. So people go to university in Dublin, Cork, Galway as well. I myself am from the North, but I attended university in Dublin, for example. So we're talking about the language in the context of Northern Ireland, I suppose, for this discussion. But the language itself, in many ways, doesn't recognize the border. It's, the language community is very fluid and dynamic and operates, obviously, on both sides of the divide, of the border divide. And in many ways of the community divide, more people of a unionist background, of a Protestant background, some are getting it. And, you know, perhaps they realize that their place name comes from Irish, as most place names in Ireland do, and they get interested in the language. And we now have, for this year, actually, just in September, is opening an Irish language nursery school, a kindergarten, in a unionist area of Belfast, which is a very positive development. And I think it's represents the sort of the change that is happening bit by bit in the community in the north.
Well, thank you very much. Merci beaucoup. Merci pour avoir écouté cette émission de Radio Linguistica. Et à la prochaine. Au revoir. Goodbye.
Au revoir.
Au revoir.